Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez C'est bon pour la santé sur Canal M. C'est peut-être quelque chose que vous avez observé autour de vous. Les enfants d'aujourd'hui sont très occupés, très stimulés. Il y a les devoirs, l'école, les différents cours, également les activités parascolaires. Et à travers tout ça, les enfants ont de moins en moins de temps pour jouer. Et aussi, parfois, parce que les adultes, les parents, ont peur des blessures, des accidents, des conflits avec les autres enfants, ben, il y a encore moins de place pour jouer de façon libre, sans supervision d'un adulte. Et pourtant, les enfants apprendraient énormément par des activités de jeu spontanées sans l'intervention d'un adulte, d'un parent. Et j'en parlerai tout à l'heure avec Nicole de Grandmont, orthopédagogue. Également, saviez-vous que même si on n'est pas un spécialiste de la santé, on peut aider les chercheurs à mieux comprendre, à mieux prévenir le développement de certaines maladies chroniques comme le cancer, comme le diabète, l'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Et ce, depuis 2009, via le projet scientifique Cartagène. Il y a 40 000 Québécois de 40 à 69 ans qui ont été choisis complètement par hasard à travers la province et qui ont accepté de se soumettre à un examen médical et à un questionnaire qui visait à rendre compte de leur mode de vie et d'ainsi contribuer à ce projet. J'en parle davantage avec Dr Catherine Boileau, épidémiologiste, également associée de recherche pour le projet Cartagène. Bonjour Catherine.
Bonjour.
On rigolait parce que épidémiologiste, c'est pas un mot facile à dire. Je vous le dis, hein, je me suis pratiquée pour arriver à pas buter sur le mot. Catherine, on pourrait faire une émission complète sur qu'est-ce que l'épidémiologie. Aujourd'hui, on parle du projet Cartagène qui, je le disais tout à l'heure, est une façon pour le grand public de contribuer à la science. Et ça, déjà, c'est assez galvanisant. Mais en même temps, d'un autre côté, pour les chercheurs, c'est une façon de créer un portrait scientifique du Québec, un portrait génétique, en fait, pour être plus précis, de notre population. Et ça, ça a vraiment de vastes possibilités.
Oui, tout à fait. En fait, le projet Cartagène a été... je dirais que l'origine du projet vient du Dr Claude Laberge, là, qui est un généticien, qui est un peu le père des programmes de dépistage urinaire là, chez les enfants, les nouveau-nés. Et puis, en fait, je pense que son idée, c'était de créer une plateforme qui allait faciliter la recherche et puis qui allait aussi nous permettre d'avoir un portrait de la distribution des risques génétiques dans la population. Mais c'est vraiment un grand projet de santé publique pour faciliter l'innovation dans la recherche.
Mais ça vient de quel constat? Est-ce que ce docteur Laberge, donc, s'est dit « OK, je manque d'informations sur la santé des Québécois, les gens sont malades, je ne sais pas pourquoi. » Est-ce que ça venait d'une inquiétude?
Bien, je ne suis pas sûre que ça venait vraiment d'une inquiétude. Ça venait, je pense, plutôt d'un besoin qui était à combler. En fait, faire une cohorte populationnelle, c'est vraiment un investissement. C'est un des devis épidémiologiques les plus puissants pour mieux comprendre les risques dans une population. Ça prend énormément de personnes et puis plusieurs années, en fait. Donc, il faut suivre les gens longtemps parce qu'on les suit tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas développé la maladie d'intérêt ou qui est arrivée par exemple, un décès. Donc, c'était vraiment un investissement. Et puis, je pense qu'on n'était pas capable, en fait, on n'est du moins pas encore capable de répondre à certaines questions qui sont très pertinentes dans la santé. Pourquoi certaines personnes qui ont certains facteurs de risque développent ou développent pas une maladie? En fait, c'est des questions qui sont difficiles à répondre si on n'a pas une cohorte de cette envergure-là.
Donc, il y a eu une première intervention, je dirais, en 2009, c'est-à-dire vous avez commencé à recueillir des données. Quelles étaient ces données-là, Catherine?
On avait, à la base, en fait, un questionnaire qui est assez, je dirais, classique, là, avec les facteurs de risque communs, en fait. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous... la consommation d'alcool. On a une bonne idée du portrait de santé au point zéro, si je peux dire. Et puis, on a la capacité de suivre les gens dans le temps par deux modes, soit par recontact direct, que ce qu'on va entreprendre l'année prochaine, ou bien via les bases de données médico-administratives, donc les bases de données qui sont recueillies là, lors d'une hospitalisation ou l'utilisation des services médicaux. Donc, à cause de ça, on est capable de vraiment avoir un portrait à long terme. Au baseline, ou au temps zéro, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on mesurait certains aspects de la santé. Donc, ce n'était pas vraiment un examen médical proprement dit, mais on avait une idée, par exemple, de la santé cardiovasculaire des gens. On avait des mesures de densité osseuse, des mesures de fonction pulmonaire, etc.
Et ça vous a permis de constater des chiffres un petit peu effarants. Une personne sur quatre fait de l'hypertension.
Oui.
Une personne sur deux, le cholestérol. Oui. Ça, on ne pouvait pas soupçonner ça.
Tout à fait. Donc, ce qui a été, en fait, je pense, le plus révélateur, c'était on savait qu'il y avait certainement une prévalence relativement élevée dans ce groupe d'âge-là de maladies qui sont... comme l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Mais ce qui était plus étonnant, c'était que la majorité des gens qui étaient atteints de ces maladies-là ne le savaient pas, finalement, en fait. Donc, parce qu'on avait des mesures sanguines, on était capable d'identifier les personnes qui souffraient de ces maladies-là, mais qui ne le savaient pas, ou aussi des gens qui le savaient, mais n'atteignaient pas, finalement, les cibles thérapeutiques, finalement.
Tout à l'heure, en introduction, et c'était désiré, j'ai mentionné que vous pouviez aller jusqu'à demander le boulot de la personne.
Oui.
J'imagine que c'est une façon de voir, OK, telle personne avec tel genre d'études, tel genre de métier, les facultés cognitives sont conservées,
oui,
tandis que dans un autre cas, ce n'est pas le cas.
Tout à fait. Donc, on a tout un programme, en fait, qui visait à avoir plus d'informations sur non seulement le titre de l'emploi, là, mais je veux dire avoir une idée de l'historique professionnel et de l'historique résidentiel. La raison pour laquelle on posait toutes ces questions-là, qui ne semblent pas nécessairement tout à fait reliées à la santé directement, on est capable d'attribuer des codes d'exposition, de risque selon certains types d'emplois ou de l'endroit où on a vécu au cours de notre vie. Donc, on crée à l'aide de matrices des facteurs de risque, là, des codes d'exposition pour nous permettre de voir dans le temps est-ce que ça a un impact sur la santé ou pas.
Donc, ça pourrait être une façon de dire dans telle région du Québec, il y a plus de gens qui font, je ne sais pas moi, de l'asthme. Est-ce qu'on peut interroger quelque chose dans l'environnement?
Tout à fait. Il y a tous ces aspects-là. Il y a l'aspect, évidemment, pollution atmosphérique, mais il y a l'aspect aussi l'environnement construit, l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que c'est un environnement qui est bon pour la santé ou moins bon pour la santé? Est-ce que ça nous facilite la vie dans le sens où on a plus tendance à marcher, faire de l'exercice ou non, finalement? Mm-hmm. Donc, c'est tous des facteurs qui sont, disons, directement ou indirectement reliés à la santé.
Et qui a accès à ces chiffres-là, Catherine? Parce que je me dis des décideurs politiques qui pourraient analyser ou du moins se faire expliquer ces chiffres-là, de dire, OK, il y a peut-être trop de pollution dans telle région du Québec, ben, on va aller parler aux usines. Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que le projet avait vraiment cette vision-là d'être une plateforme pour la recherche, l'innovation. Puis ça, on parle de la recherche fondamentale, mais aussi de la santé publique. Donc, c'est de la recherche qui, disons, se traduit peut-être plus facilement dans les politiques. Alors, la plateforme a été vraiment développée pour les chercheurs, mais les chercheurs dans différents domaines. Et puis, c'est de mieux en mieux si les gens ont des liens avec les politiques et puis pour les mettre en application.
Parce que ça rend visuel les choses, là. En tout cas, du moins, c'est beaucoup plus concret. Bon, je le disais tantôt, 40 000 Québécois qui ont participé depuis 2009 à cette vague de données scientifiques-là. Et là, c'est des gens choisis par hasard qui ont accepté, finalement, là, qui ont sauté dans ce projet-là. Donc, comment expliquer l'intérêt des gens?
Je pense que, d'une part, les gens sont ouverts à l'idée qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'on va pouvoir découvrir en connaissant les risques génétiques d'une maladie. Je pense qu'il y a un engouement pour ça, la promesse de la génétique et de la médecine personnalisée. Je pense que l'approche qu'on a utilisée aussi, c'était une approche qui était relativement personnalisée. Donc, les gens étaient choisis au hasard, mais ils avaient été sélectionnés pour être représentatifs de la population. Donc, ce n'était pas un appel au hasard qu'on faisait. On appelait une personne en particulier parce qu'elle elle était éligible finalement. Et puis, donc, il y avait un engouement, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un engouement pour tout le monde dans tous les strates. Donc, par exemple, les hommes participent un peu moins que les femmes. C'était plus difficile d'aller chercher les hommes que les femmes, les jeunes surtout. Mais je pense que de façon générale, au Québec surtout, on est assez ouvert à ça.
Mm-hmm. Pourquoi 40 à 69 ans?
On s'est dit que, bon, premièrement, on constitue une cohorte, il faut les suivre longtemps, mais il faut... c'est des gens qui vont développer des maladies dans les prochaines années, finalement, ouais. Malheureusement, mais c'est ça. Donc, si on veut étudier des maladies, certains types de cancers, on sait qu'on va devoir suivre les gens très longtemps, probablement, surtout les cancers qui sont un peu plus rares. Mais on voulait aussi avoir la capacité d'avoir des nouveaux cas, finalement, de l'incidence de certaines maladies. Donc, entre 40 et 69 ans, on sait que certaines personnes vont développer des maladies chroniques.
Catherine Boileau, vous êtes associée de recherche pour le projet Cartagène. Pourquoi, et ça, vous l'avez dit plusieurs fois au cours de la discussion, pourquoi suivre toute leur vie ces gens-là?
On les suit toute leur vie parce qu'on a besoin d'avoir un résultat de leur santé. Donc, okay. C'est vraiment, l'idée, c'est de... Il faut qu'on suive la personne tant et aussi longtemps qu'elle est saine. Du moment qu'il survient un diagnostic ou bien un décès, on est capable d'attribuer un résultat, finalement. Puis on le sait qu'au temps zéro, on connaissait son risque d'exposition. On connaît le risque d'exposition de tout le monde. Et puis, en bout de ligne, on va pouvoir voir le parcours, en fait, de santé de tous ces gens-là.
Est-ce que vous pouvez intervenir du point de vue de la prévention, c'est-à-dire de dire à cette personne-là, OK, je vois ta courbe évoluer, je vois tes habitudes changer, bien, c'est là que tu te diriges. Est-ce que vous avez cette permission-là?
Bien, c'est-à-dire, de toute façon, en épidémiologie, on est souvent dans un paradigme d'observation. Hein. On est là pour observer ce qui se passe. On intervient, mais pas directement chez l'individu pour lui dire ah, « attention, ça va ou ça va pas ». Mais on est là pour, de façon très transparente, donner de l'information. Donc, un participant qui va commencer à être suivi avec le projet Cartagène va avoir une idée, en fait, des tendances. Il va connaître va connaître son état de santé quand ils ont commencé le... Et puis, je pense que c'est de toute façon, quand on participe à un projet de cet ordre-là, c'est un peu une prise de conscience, en fait. Juste remplir un questionnaire puis dire « Ah oui, c'est vrai, ça fait 25 ans que je fume. Ouais. » Déjà, c'est bon.
Oui. Évidemment, ça pose des questions du point de vue éthique. Est-ce que tout ça est confidentiel? Est-ce que les assureurs peuvent avoir accès à ces données-là?
Non, les assureurs ni les employeurs. Donc, il y a vraiment on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur ça. Il n'y a pas d'accès. L'accès est vraiment pour des projets de scientifiques qui ont été évidemment vus par des comités d'éthique. Et puis, il n'y a pas d'accès. Nous, même au projet Cartagène, on n'a pas d'accès direct. On ne connaît pas les participants. On a accès aux données, mais on n'a pas accès aux participants.
C'est-à-dire, c'est ça, on peut voir les données, mais il n'y a pas de nom associé.
C'est ça. Tout est codé. Et puis, c'est vraiment dans des entités séparées. Les données de santé sont conservées dans une base de données, alors que les données nominatives qu'on appelle ou identifiantes sont dans une autre base.
Catherine, est-ce qu'il y a des projets de biobanque, hein, c'est comme ça que l'on appelle Cartagène, ailleurs dans le monde, des types de projets de cette envergure-là?
Oui, c'est assez tendance, là, les biobanques, il y en a beaucoup un peu à travers la planète. Et puis, je pense qu'il y a vraiment un engouement pour ce qu'on appelle « big data science », l'importance d'accumuler beaucoup de données. Cartagène fait partie de ça, disons, on fait partie de ça et on n'est pas nécessairement unique dans ce sens-là. Mais ce qui nous rend un peu unique, c'est que, ben, d'une part, je pense que la population québécoise est relativement unique. On a 6 millions de Québécois qui sont descendants d'environ 10 000 colons dans les années au 17e siècle. Donc, du point de vue de la génétique, c'est assez intéressant. Et puis, on est vraiment une cohorte qui est axée sur la profondeur de l'information. Donc, il y a peu de biobanques qui ont d'informations détaillées sur les expositions environnementales, sur les habitudes alimentaires et puis sur la capacité de suivre les gens dans le temps comme la nôtre.
Mm-hmm. Et je pense que l'une des autres choses qui peut-être vous distingue, vous rend unique là, avec Cartagène, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs qui ont accès à ces données-là. Il y a beaucoup de recherches qui se font. Combien? Est-ce que vous avez un chiffre approximatif?
Disons qu'on a ouvert nos portes en 2009. Le projet a été conçu pour être une plateforme ouverte pour faciliter la recherche. Donc, c'est vraiment pour la communauté scientifique. la communauté scientifique internationale. Donc, il n'y a pas de restrictions sur qui va avoir accès à ces données-là. Évidemment, comme je le dis, il faut que ça soit de la recherche qui soit faite avec un encadrement éthique,
il y a un comité éthique, là, voilà.
Et aussi scientifique. Mais depuis 2009, on a environ, je dirais, une trentaine de projets qui sont en cours, qui ont été approuvés. Ça va faire boule de neige, en fait. Hein. C'est vraiment, les gens doivent reconnaître la qualité des données, des échantillons qui ont été collectés, et puis reconnaître aussi le fait que ça va faciliter beaucoup la recherche, ça va accélérer. Donc, tout l'aspect collecte de données, tout ça, c'est vraiment pour épargner, sauver de l'argent, en fait. Toute cette partie-là n'a pas besoin d'être faite par le chercheur. Ils peuvent d'emblée commencer à faire des analyses sur les données ou sur les échantillons.
Oui. Et on a parlé jusqu'à maintenant, Catherine, beaucoup de prévention, de dresser un portrait, de collecte de données, mais tout ça amène à des diagnostics et des traitements. C'est ce qui est souhaité à quelque part.
Oui, on espère que... Il y a beaucoup de recherches qui vont être orientées vers la découverte de nouveaux biomarqueurs qui peuvent être des cibles thérapeutiques ou qui peuvent être des marqueurs prognostiques ou diagnostiques. Donc, surtout une meilleure compréhension des mécanismes, là, des maladies complexes qui sont multifactorielles. Mm-hmm. Donc, on espère que ça va se rendre jusque-là, effectivement.
Tout ça pour une meilleure santé de nous.
Oui.
C'est ça qui est de formidable. Bon, maintenant, c'est quoi la suite? Est-ce que l'on peut s'attendre à avoir un appel de votre équipe dans les prochains mois, prochaines années pour donner, nos données sans urine?
Pour les prochaines étapes, je pense qu'on a constitué une cohorte qui est suffisamment grande pour l'instant, 40 000 personnes, c'est plus que ce qu'on avait espéré. Mais donc là, l'idée, c'est de la fidéliser, donc engager les participants à continuer à nous donner de l'information. On va développer des outils qui vont nous permettre de recontacter les gens plus régulièrement, de leur offrir des nouvelles enquêtes qui sont peut-être des enquêtes complémentaires et puis exploiter ce qu'on a accumulé, la ressource qu'on a accumulée, donc les échantillons qui sont dans la banque. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut tirer du sang et de l'urine qu'on a collecté, puis ça va être notre devoir là, de rendre ça accessible.
Oui, et une façon aussi, j'imagine, de revoir les traitements qui sont déjà en place et de se dire, est-ce que ces traitements-là ou les médicaments sont suffisamment efficaces et est-ce qu'on les prend comme il faut et l'importance de les prendre? Là?
Oui, il y a un intérêt, il y a vraiment un intérêt sur ça. Je pense qu'il y a déjà deux ou peut-être même trois projets qui s'attardent particulièrement sur cet aspect-là. Donc, on a cette information-là, évidemment, parce que c'est déclaré par le participant. On connaît son état de santé, mais on a aussi accès aux bases de données médico-administratives qui nous donnent de l'information sur les médicaments. Donc, c'est très, très, très intéressant pour les chercheurs.
Oui. Bien, merci de créer ce portrait-là de notre santé. Catherine Boileau, je le rappelle, vous êtes épidémiologiste, je m'en viens bonne, et associée de recherche pour le projet Cartagène. Merci d'avoir été en studio.
Ça me fait plaisir.
Madame de Grandmont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également chargée de cours en éducation à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Et je vous cite, ça a été relaté dans un article de la presse en 2014. Vous dites, mes étudiants comprennent pas qu'on puisse laisser un enfant d'âge maternel, préscolaire, jouer librement au Lego. Ils ont sans cesse le besoin de noter, de tester, parce que il faut qu'ils rendent compte du jeu, des apprentissages de l'enfant dans un bulletin, parce que le parent souvent a l'impression que si c'est pas comptabilisé, sans résultat, l'enfant perd son temps. Et ça m'amène à me dire, est-ce que même l'éducation de l'éducateur a changé?
La société a changé. Quand la société change, les parents, les éducateurs, les professeurs, tout le monde change. Ça, c'est un mouvement, la fameuse boule là, qu'on frappe sur les autres puis qui donne des contre-coups, on n'en peut finir. La société a beaucoup fait d'études psychologiques, pédagogiques et de tout acabit sociologiques sur les enfants. Et à partir de là, ce qu'on a mis en évidence, c'était des choses qui étaient comme des tares. Par exemple, le parent qui ne s'occupe pas du tout de son enfant. Alors là, on a polarisé là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais souvent, on a une difficulté à faire saisir que c'est pour une toute petite quantité de gens et non pas qu'on doit le généraliser. Okay? Ça, ça a donné comme des élans à certains mouvements où on dit, ben là, il faut s'occuper des enfants, sinon, sinon, sinon. Et les parents sont devenus des boucs émissaires, si vous voulez. Si tu n'encadres pas ton enfant 24 heures sur 24, t'es un mauvais parent.
On craint que notre enfant soit sous-stimulé.
Absolument. Et il va devenir fou, il va devenir fainéant, il va devenir délinquant, il va devenir...
décrocheur.
Du gibier de potence, en fait. C'est l'image est là. Donc, les parents vont essayer toutes sortes de choses pour ne pas que ça arrive. Mais sauf que les parents, dans ce mouvement-là, qui est un mouvement excessif, oublient que même eux ont besoin de moments de répit.
Mm-hmm.
Et si un adulte a besoin de moments de répit, que ce soit à son travail, que ce soit à la maison, pourquoi ne pensons pas que l'enfant aussi en a besoin?
Et par moments de répit, on entend de rêvasser, juste s'arrêter, contempler?
Et les enfants vont avoir une propension très forte à l'action parce qu'ils sont constitués pour apprendre. Donc, quand vous pensez qu'on les met en situation de rêvasser, comme vous dites, c'est pas vrai. Il va trouver une action à faire.
Ouais.
Si vous regardez le petit bébé dans son lit, là, on va commencer par celui-là, puis on essaiera de monter avec l'âge. Petit bébé dans son lit, là, laissez-le gazouiller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec ses orteils.
Ouais.
Il joue avec sa couverture, avec son oreiller, avec tout ce qu'il peut attraper. Il n'est pas fainéant. Okay? Et il découvre à ce moment-là certaines choses. En fait, l'enfant, quand il fait ça, qu'il est, bon, le petit bébé dans son lit ou plus vieux, 7, 8 ans, 10 ans, il déconstruit son monde.
Mm-hmm.
Il brise rien. Là. Souvent, on pense qu'il va briser. C'est pas ça. Il déconstruit. C'est-à-dire, lui, là, il peut pas avoir les yeux qu'on a, nous autres. On a quoi? On a de l'âge. On a de l'expérience. On a des jugements, des interventions qui nous ont été inculquées quelconques. Lui, il n'a pas tout ça. Donc, le monde, comme il le voit, c'est un monde qu'il ne comprend pas. Puis, la moindre petite chose, il ne la comprend pas. Il faut qu'il l'assimile. C'est ce qu'on a fait quand on était petit. On a essayé d'assimiler tout ce qu'on nous disait. Donc, il déconstruit son monde, puis il le reconstruit à sa grosseur. Donc, après ça, il dit, bien, ah oui, là, je comprends telle affaire. Telle affaire, je ne comprends pas. Et quand il ne comprend pas, il va faire tout simplement une réaction inverse. Il va dire, c'est plate.
Mm-hmm.
J'aime pas ça. Ça, là, c'est pas parce que c'est un mauvais jeu qu'on lui met ou une mauvaise situation. C'est que c'est pas à sa portée. Pas pour le moment.
Pour le moment, oui.
Ça reste dans son inconscient. Et quand on verra sa maturité, il va s'en servir pour pouvoir avoir des acquis. Je vais vous donner un exemple. On dit souvent aux enfants tout petits, c'est amusant, 2 plus 2, ça fait 4. Alors, à 2 ans et demi, 3 ans, là, quand il commence à parler franchement, là, il va répéter à qui veut l'entendre. 2 plus 2, ça fait 4. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit.
Non.
Il ne sait pas. Il n'a pas la notion. Okay? Il ne sait pas ce que c'est que le 2. Il ne sait pas quelle est la quantité de 2. Donc, il est dans la répétition de ce que l'adulte lui dit, parce que quand il répète, on rit. Et quand on rit, on encourage. Donc, il va faire ça. Mais à 7 ans, quand je dis 2 plus 2, ça fait 4, tout ce qu'on lui a dit quand il était petit remonte à la surface.
Oui.
Et là, l'acquisition de la notion de quantité apparaît comme étant stable.
Il a accès à ces expériences-là du haut de ses 7 ans.
Tout à fait.
Et tout ça fait appel, on le disait, on le redit, à l'autonomie de l'enfant,
oui,
mais également à sa créativité. Et ça, ça sera un outil formidable pour toute sa vie et à travers tout son développement.
Son autonomie est la chose la plus importante parce qu'elle va être le moteur de sa motivation et le moteur de sa structure. Sur quoi il va plus polariser? Plus un enfant est autonome, plus il va savoir s'il est manuel, visuel, artistique, tout ce qu'on trouve dans la société.
Mm-hmm.
L'autonomie, c'est-à-dire être capable pardon, de décider si j'ai le droit de faire ça et pourquoi. Oui. Et souvent, les parents n'ont pas beaucoup de temps et les pourquoi sont éliminés. Mm-hmm. Et quand on ne sait pas pourquoi, on refuse de le faire. Donc, à partir de là, si on veut qu'un enfant soit autonome, c'est de le laisser aller, mais s'il fait quelque chose qui est inapproprié, c'est de donner le pourquoi que c'est inapproprié.
Le pourquoi de la règle, finalement, voilà. De la consigne.
Tout à fait.
En terminant, Nicole de Grandmont, un parent qui se dirait inquiet de la sécurité de son enfant, bon, alors c'est pour ça qu'il ne laisse pas jouer dans la ruelle, par exemple, avec les autres amis, ou encore, bon, qui aurait toujours le besoin d'intervenir dans le jeu de ses enfants. Quelles seraient les consignes? Ses consignes à lui pour peut-être se retirer un peu et lâcher lousse, comme vous disiez tout à l'heure, son enfant?
Bien, il faut que le parent fasse son apprentissage. C'est-à-dire qu'il peut se donner comme consigne, bon, le prochain 5 minutes, là, je ne veux pas rien savoir, je ne les regarde pas, tu sais. Parce que c'est tellement fort ce qu'on véhicule dans la société que c'est sûr que les parents ont un apprentissage à refaire. Il y a un point qui est aussi très, très important. Notre société d'information parle beaucoup de pédophilie.
Oui.
Et souvent, c'est sous ce prétexte-là que le parent intervient.
Par peur d'agression, oui.
Ouais. Mm-hmm. Mais si on a bien informé l'enfant, si on lui dit pourquoi il ne doit pas parler aux autres personnes qu'il ne connaît pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, enfin, on pourrait tous les énumérer, là, mais les pourquoi que ça pourrait être dangereux et comment se défendre. Mm-hmm. On a une voix pour crier, on a des dents pour mordre, on a des pieds et des poings pour se défendre.
Des jambes pour courir.
Eh oui. Donc, à partir de ça, je pense qu'on peut lui faire confiance. Qu'il se blesse, mon Dieu Seigneur, c'est toujours triste qu'un enfant soit blessé, mais ça fait partie de la vie. Qui ne s'est pas coupé en préparant, je ne sais pas moi, un repas pour des invités? Mm-hmm. Il y a un moment d'inattention, un flac, le couteau est trop proche des doigts.
Oui.
Les adultes s'autorisent, mais si l'enfant se blesse, non, c'est plus le même problème, mais si, c'est le même problème.
Mais la journaliste de La Presse le disait bien, d'ailleurs, on accepte que notre enfant, lorsqu'il apprend à marcher, tombe, mais après, dans ses différents apprentissages, ben là, on n'accepte plus qu'il se trompe et qu'il tombe. Ben, il faut réapprendre ça aussi en tant que parent. Merci beaucoup, Nicole de Grandmont. Je rappelle, vous êtes orthopédagogue, également chargée de cours en éducation à l'Université du Québec à Montréal. Et on parlait aujourd'hui, pardon, de l'importance du jeu libre. Laissez vos enfants jouer, puis ça vous permettra d'avoir du plaisir aussi de votre côté.
Assurément.
Merci.
Au revoir.
Eh bien, merci d'avoir été des nôtres. Merci à Yannick Roberge derrière la console. Christiane Campagna à la recherche. C'est Marianne Paquette. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.